Bien, alors juste un petit mot. On me fait l'honneur de dire un petit mot, donc je suis très, très content. Je suis un peu frustré là, je n'ai pas encore parlé. Alors, une rencontre très particulière pour les Utopiales.
Asseyez-vous.
Non, parce que je vais rester vraiment 2 minutes. C'est une rencontre très particulière pour moi en tant que délégué artistique entre Jean-Pierre Dionnet et Dominique Poivet, le fils de Raymond Poivet. Elle est très particulière pour moi, d'abord en raison de la personnalité des deux personnes qui sont devant vous aujourd'hui. Et puis surtout parce que c'est un hommage à Raymond Poivet, que moi j'ai découvert très tard, il faut bien le reconnaître, hein, peut-être question de génération. Et vous avez la magnifique exposition qui est là, qui à mes yeux, je le dis très clairement en tant que délégué artistique, est probablement la plus émouvante de toutes celles qui sont présentées cette année au festival. Et je remercie très chaleureusement Dominique d'être présent. Nous nous étions rencontrés à Paris, j'en ai gardé un excellent souvenir. Donc vraiment merci de votre présence pour accompagner la mémoire du travail de Raymond Poivet et puis son actualité aussi. Et je vous invite donc tous à aller voir cette exposition. Voilà, merci à Jean-Pierre Dionnet aussi d'avoir accepté de modérer cette rencontre. Voilà, bonne rencontre. Allez, à
vous maintenant. Oui, alors moi je suis... quelque part, je vais provoquer un drame dans la salle parce que moi, je suis le fils de Raymond Poivet. Lui, il n'est que le fils physique. C'est une histoire... oui, voilà. Avouable, mais classique. Moi, c'est quelqu'un qui a enchanté ma jeunesse parce que, étant étudiant, j'achetais les livres le moins cher possible. Et donc, les recueils Vaillant qui étaient parus quand je naissais, je les ai achetés après coup. Donc, j'ai lu tout Poivet, y compris ce qui paraissait de mon époque, simultanément. Que quand j'ai voulu faire de la bande dessinée, il m'a encouragé. Que quand j'ai voulu faire des aventures de fou genre métal, il m'a encore plus encouragé. Non, blague à part, nous sommes un grand nombre. Ça va de Ginon à Forest en passant par Mandrika, qui ne semble pas être directement influencé graphiquement par Poivet, mais n'empêche que oui, il lui a dit de continuer dans sa veine non-sensique avec ses légumes, donc il a eu une influence. Alors je pense à l'immense Robert Gigy qu'on a un peu oublié, je pense évidemment, je pense à Jean-Claude Forest, je pense à tout le monde. Et je pense à mes dernières rencontres chez lui avec celui que j'ai toujours appelé Monsieur Poivet. C'est le seul que j'ai jamais tutoyé, que j'ai jamais machin. Une ou deux fois, il a essayé, mais moi, je ne pouvais pas. C'est impossible. Impossible, impossible. Et avec Gilon, on lui rendait visite. Il disait, mon fils, il n'est pas le même métier, hein, parce que la bande dessinée, c'est foutu. C'est foutu depuis longtemps, comme le roman photo. Et donc son fils a fait un autre métier. Et toute sa vie, il nous disait, la bande dessinée c'est foutu, mais il nous demandait aussi de lui amener les dernières nouveautés. Et dedans, il disait, ah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'était drôle parce qu'il avait un discours double, ou triple, ou quadruple. Mais je pense que là-dessus, il y en a un qui est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, parce que peut-être que devant moi, il était en représentation, j'en sais rien. Alors, je vais laisser la parole au fils de Raymond Poivet.
Eh bien, voilà. Je me présente avec mes chromosomes. Au moins une partie de ceux-là sont concernés par mon père. Pour le reste, par ma mère, ce qui est assez logique pour chacun d'entre nous. Ce qui me paraît intéressant peut-être pour ici à essayer d'explorer un petit peu et pour moi de relire un petit peu tout ça, c'est finalement tout le cheminement d'une vie de proximité, c'est-à-dire que en tant que fils unique, si vous voulez, j'étais très proche de mon père et je recevais assez volontiers toutes les indications qu'il pouvait me donner sur mes activités d'enfant, que ce soit le modelage, que ce soit la peinture, la gravure, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi, du plâtre, du staff. Et finalement, j'ai fait provision de toute une série de petites tranches artisanales, ce qui m'a permis de faire un métier qui n'avait rien à voir avec tout ça. Pour préciser, je suis psychiatre, psychanalyste, ce qui explique bien des choses, et ce qui explique aussi, si vous voulez, que ce sont ces dialogues avec sa dimension d'artisan, en quelque sorte, communiquant les techniques à son fils. C'est dans cette démarche-là que je peux raconter des choses ici, aujourd'hui. Et parmi ces choses, il y a ce qui précédait juste... J'ai assisté à la précédente séance, ici même, il y a une demi-heure, et je me suis posé la question, effectivement, de savoir si je pouvais considérer à un moment donné une rupture dans la vie relationnelle que je pouvais avoir avec mon père. Or, je me suis aperçu que, me posant la question là, maintenant, tout de suite, je ne pouvais absolument pas penser que j'étais, par tranches successives, avant 53, après 53, après 68, avant 68. Et je me suis demandé si, effectivement, cette espèce de proximité que je pouvais avoir avec lui ne tenait pas à le sentiment d'une certaine continuité. Mon père, d'une certaine manière, m'est toujours apparu comme éternel. Bon. L'autre point, si vous voulez, qui me paraît important aussi à préciser, c'est que cette difficulté à me situer dans une catégorie historique, mon père l'avait aussi. Il ne faisait pas de, comment dirais-je, il ne mettait pas de hiérarchie, par exemple, dans les valeurs des objets dessinés, crayonnés, les brouillons, etc., etc. J'ai retrouvé de ces dessins, de ces croquis, à peu près n'importe où, pour entourer une clé anglaise trempée dans l'huile, pour mettre des fruits dans un panier, je saurais même pas faire le total des objets, des dessins invraisemblables que j'ai pu trouver. Donc, si vous voulez, là aussi, une certaine absence de catégorie, je dirais, pour préciser, au moins intellectuelle, parce que sur le plan de la sensibilité, ça, par contre, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que on est pris dans des mouvements de temps, des vagues dans les relations qu'on peut avoir, bon, pour les uns et pour les autres, ça ne se traduit pas, mais je pense que pour mon père, c'était quelque chose qui était à la fois inhérent à lui-même et fondamental dans sa manière de traiter le dessin. Et je pense que si vous avez vu l'exposition là, vous retrouvez absolument, je dirais, non pas des étapes historiques, mais des étapes affectives. Hein, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui caractérise son trait, qui caractérise le dessin, l'image, etc., etc. Mais j'ai déjà trop parlé. Non,
moi je voulais vous poser une question comme le vrai fils. Parce que je voulais savoir pour un vrai fils comment ça se passait, parce que moi j'avais remarqué une chose, j'ai dû le rencontrer, c'était à bande dessinée, figuration narrative, c'était avant avec Molly Terny, donc je devais avoir, je vais dire, peut-être 16-17 ans, avec un côté un peu péremptoire, de type qui connaît pas grand chose, mais qui fait comme s'il connaissait tout, enfin 16-17 ans, tout le monde a connu, ou il y en a peut-être même qui connaissent actuellement, on est comme ça. Et il me parlait sérieusement, comme si j'étais intelligent, adulte et tout. Et puis après, quand j'ai pris de l'âge et de la bouteille, il a continué à me parler sérieusement. Et puis quand j'en ai vraiment pris et que j'ai su plus de choses, il a continué à me parler sérieusement. Mais il n'y avait aucune condescendance, il n'y avait aucun... Donc je voulais savoir, pour un fils, quand il vous apprenait des choses comme ça et tout, est-ce qu'il parlait à l'enfant et plus tard à l'ado ou à l'adulte, ou est-ce que c'est comme moi, est-ce que parfois il vous donnait une espèce de surinformation en pensant que vous alliez la consommer et la comprendre?
C'est pas la consommer, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est qu'il ne posait une interrogation que dans la mesure où on pouvait la réfuter. C'est quelqu'un qui acceptait, alors là, sans aucun problème, qu'on puisse avoir une opinion différente que la sienne. Bon, la sienne restait immuable, hein. C'était pas un homme de compromis au point de vue intellectuel, mais d'un autre côté, si vous pouviez penser ce que vous voulez, et recevoir un peu l'information qu'il voulait donner, ça, il était d'une générosité assez rare. Hein. Il a reçu, je pense, bien des dessinateurs et bien des scénaristes dans son atelier, dans l'atelier de la rue des Pyramides. Tout le monde, à peu près, y est passé, même s'il n'y est pas resté. Mais...
Oui, oui, là-dessus, je voulais faire une aparté parce que j'y pensais tout à l'heure. Parce que j'ai croisé un ou deux dessinateurs ou scénaristes qu'il a reçus sans problème, puisqu'il les recevait d'abord à l'atelier, et puis après, il fallait faire le chemin pour aller le voir et se baigner dans la piscine en plastique où il n'avait pas changé l'eau.
Un petit peu lourde.
Ouais, voilà. Fallait rentrer dedans. Et je me suis dit, mais pourquoi il faisait ça? Parce que j'ai connu des gens comme ça qui recevaient assez facilement les générations à venir. Dans le cas de Jean Carmet, c'est très curieux. Il recevait facilement les gens et un jour j'ai présenté un jeune journaliste qui est mort avant lui, hélas. Il a passé la nuit avec lui. Et le lendemain, je dis, écoute, c'est magnifique ce que tu as fait. Il dit, non, je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi, parce que je l'ai vampirisé. Il y en a un autre qui recevait tous les jeunes comme ça, et qui lui aussi disait, en fait, c'est pour me tenir dans le coup. Ils croient que je leur donne, et je leur donne des conseils techniques, mais en fait, je leur vole des trucs. C'était Serge Gainsbourg. Par contre, Raymond Poivet, d'autant que la dernière fois que j'étais le voir avec un dessinateur, il faisait plus que ces choses au style hobby religieuse, il n'avait rien à gagner au niveau de « ça va me faire rebondir » dans ses rencontres avec le dessinateur. Donc je dirais qu'il est peut-être avec le créateur de Spirit, Will Eisner, et avec Harvey Kurtzman, qui recevait Crumb alors que sa carrière était faite, ils sont le cas de gens qui s'ouvraient aux nouvelles générations. Peut-être par curiosité de ce qu'ils allaient faire, peut-être par curiosité de ce qui se passait, mais sans intérêt. Je ne dis pas que l'intérêt de Carmé ou Gainsbourg était négatif, hein. Loin de là, c'était un choix de trucs. C'était moins un partage, parce que c'est vrai qu'il était assez immuable. Il vous laissait exprimer une opinion complètement contraire, et puis après, il vous disait, oui, mais enfin, moi, je pense que vous avez tort. Je disais, ah, vous avez vu, monsieur Poivet. Vous avez dit que la bande dessinée était morte, mais depuis 8-9 ans, avec Metal, on vous prouve qu'elle peut se renouveler. Il dit, ouais, vous jouez les prolongations. Mais enfin, l'un dans l'autre, autour du millénaire, c'est plié. Hein. Mais par contre, je lui ai amené un jeune dessinateur, très doué, mais qui avait fait ses premières planches, et il y avait Gilon qui était là en plus. Alors les deux, comme les deux n'étaient pas inhibés au niveau de la parole, ils montrent ses planches tout fiers. Gilon et Poivet se regardent. Ils disent, tu lui dis ou je lui dis? Alors il y en a un des deux qui dit, voilà, c'est pas mal hein, ton truc. Hein. Mais il y a plein de fautes de dessin, et comme tu es malin, tu les camoufles à la couleur. Écoute, travaille davantage ton dessin et après tu mets en couleur. Bon, le dessinateur en question avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Laurent Thoreau, j'ai fait une série avec lui qui s'appelle Les Dieux et des Hommes, il a arrêté de bosser pendant 15 ans. On a fait un premier album où Moebius l'a aidé en trouvant qu'il avait du talent et en lui faisant refaire ses dessins. Mais il camouflait encore un peu à la couleur. Bon, c'est une série qui n'a pas marché. Le tome 5 ne paraîtra jamais. Mais ça y est, il a compris. Des fois, il faut du temps, surtout quand contre lui, on est à la fois antiquaire et dessinateur. Mais j'ai bien aimé ça, en plus, le fait qu'il avait ce franc-parler. En fait, si ça avait été s'il en avait rien eu à faire, lui comme Gilon, ils auraient dit, c'est très bien, jeune homme. Allez, hop. Par contre, ils lui ont dit quelque chose qui... Moi, j'ai appris, je lui ai dit, ça va, Laurent. Il dit, très bien, parce qu'ils m'ont donné un super bon conseil. Et je trouve que là-dessus, il était d'une générosité... À l'atelier de la rue des Pyramides, avec les dessinateurs qui recevaient, avec ceux qui lui demandaient des conseils dont aussi têtu que lui ne tenait pas compte, comme Gire qui disait on va foutre le trône de Goscinny en l'air, on va prendre sa place. Pas bonne idée, hein. Pas bonne idée, c'est à lui le trône, c'est lui qui a tout payé avec Astérix. Quand même, merci de votre conseil de ne pas le faire, mais on va le faire. Bon, ok, mais il le faisait. Et je trouve qu'il avait cette générosité infinie, mais il y a aussi quelque chose qui me touchait infiniment, c'est qu'il était, et il ne savait pas, il n'a jamais voulu comprendre que dans son dessin, c'était complètement contenu. Il disait, oui, mais j'ai étudié le drapé, j'aurais pu être fresquiste, j'aurais pu être peintre, j'aurais pu être cela, je me suis retrouvé à faire de la bande dessinée, d'abord du roman photo dessiné, ça s'est arrêté, puis après de la bande dessinée avec des scénarios qui des fois n'étaient pas terribles. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est bon, j'ai peut-être raté mon époque. Je sais pas, on lui disait sans arrêt avec Gillon, mais vous avez fait des merveilles absolues, des machins, il faisait bobo. Bon, je pense que une oreille quand même entendait, une partie de l'oreille entendait, même quand il faisait semblant, qu'on disait wow, ça va. Alors on lui disait, ah, le jardin fantastique, c'est une des plus belles bandes dessinées du monde, c'est autre chose que Raymond, puisque ça se passe dans un potager, c'est un peu Pierre Véry chez Alex Raymond, puisque c'est un jardin potager magnifique, comme disait Marc Caro, qui en a parlé l'autre jour, qui rêvait d'en faire un film, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'y avait pas d'histoire. Mais je ne sais pas s'il réalisait ça, mais c'était jamais amer chez lui. Et je me souviens, quand il a commencé à faire ses personnages religieux, ses madones et tout ça, en disant, je vous rassure, je suis toujours athée. Tout comme quand je travaillais dans le journal communiste, je n'étais pas communiste. Mais ces madones contenaient quand même toute la symbolique religieuse qui s'est arrêtée en gros au Quattrocento, puisqu'après on est rentré dans les contrebandiers comme Crivelli qui faisait mieux les fruits, et puis après dans cet abominable art hollandais où on représentait des marchands puis ils avaient commandé le tableau, j'exagère.
Le fait effectivement c'est de... comment dirais-je, pour lui, de la nécessité à tout moment de pouvoir ouvrir sur une possibilité autre. C'est-à-dire que finalement, il a toujours eu, jusqu'à sa mort, eu l'ambition d'avoir le maximum de possibilités pour lui. Une anecdote, alors qu'il était malade, et ça c'est une anecdote, je dirais, vécue, hein. J'étais venu le voir et le voyant pas bien du tout, puis quand on est médecin, on sait très bien quand ça va pas bien, hein. Donc là j'avais absolument aucune idée de quand ça allait se passer, mais je savais que c'était imminent. Et j'avais un air naturellement correspondant à la situation. Et mon père qui me dit, écoute, fais pas cette tête-là. À mon âge, il peut rien m'arriver de grave. Bon. Là-dessus, il a pris son bloc qui était à côté sur sa table de nuit. Il s'est mis à griffonner un exercice qui consistait à faire un camembert façon Max Escher, c'est-à-dire avec une torsion de... Voilà. Donc, si vous voulez, la nécessité pour lui, c'était toujours, et ça se voit aussi, par exemple, dans ses dessins les plus récents, c'est qu'il n'a pas un trait de la ligne claire. Hein, son trait est un trait qui est sensible, qui vibre. Et ça, je pense que c'est une chose importante, c'est qu'on a, en quelque sorte, presque associé l'idée de la bande dessinée à l'idée de la ligne claire. Pourquoi marque jaune, Tintin, etc., etc. Mais en fait, si vous voulez, je pense justement que c'est la peinture italienne qui l'a guidé, qui l'a stimulé. Et effectivement, cette ligne pas claire, en fait, c'est le spumato. Hein, c'est cette technique de la peinture italienne qui amène en quelque sorte dans le trait devient une fumée. Et non pas un liquide. Hein, mon père distinguait par exemple parfaitement l'idée du trait justement et l'idée du plan. Même si c'était en noir et blanc, le plan et le trait n'étaient pas la même facture. C'était pas le même outil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a utilisé ensuite le crayon à billes. Comme autre point, vous parliez du potager, là, qui était important parce que c'était sa fierté. Le potager, c'était le lieu, justement, où, dans une première série, il avait fait donc le jardin fantastique. Et le jardin fantastique a été fait avec un outil que nous avions trouvé au marché aux puces, qui était le premier appareil à visionner à l'intérieur d'une vessie. On a trouvé un cystoscope médical qui avait une optique correcte. On avait payé des clopinettes, enfin je n'ai plus en mémoire exactement. Et l'astuce du jardin fantastique, ça a été que grâce à ce cystoscope, on voyait les plantes, je dirais comme on voit les plantes en élévation normale, On pouvait se mettre tout petit, se croiser un scarabée, fréquenter une araignée, parce que c'est quasiment microscopique. Enfin bon. Et c'est avec cet outil-là que finalement, il énonçait aussi très clairement que la texture d'une image, ça tenait essentiellement à son échelle. Et que, par exemple, quand il y a le jeu sur une taille de case face à une autre taille de case, ce qui importe, ce n'est pas la taille, c'est que chaque personnage ou chaque indication de la case soit inscrite dans dans une recherche sur l'échelle des choses. Hein, on n'était pas intelligent ou pas intelligent, mais, ben, ma foi, on se situait à sa hauteur et on voit les choses et on les voit raisonnablement. Enfin voilà, je bats ton rompu.
Mais pour revenir à ce que vous disiez là, si vous allez à la librairie, vous verrez, il y a Les Pionniers de l'Espérance, qui reste l'œuvre la plus connue. Bon, il y a une vieille malédiction qui fait que tous les éditeurs l'ont réédité dans l'ordre et que généralement ils s'arrêtent au 6. Parce que les gens ont de moins en moins tendance à vouloir une collection qui fait des mètres, les appartements rétrécissent, c'est comme ça. Et par chance, il y a Henri Filippini qui a fait le 7. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un fera le 8 et le 9. Mais quand vous prenez le 7, là, il y a un truc qui se passe. Alors, je lui avais félicité pour les couleurs. C'est une histoire qui se passe dans une espèce de bulle où il y a des meubles organiques et tout, incroyable. Et dans les couleurs, il dit, j'ai rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent de chez Vaillant, mais je ne le connaissais même pas. Mmh. Autant pour moi, sur la théorie des auteurs, où je disais, vos verts, vos rouges. Mais cette histoire, pour moi... Pour ceux qui ont vu le mobilier qui renouvelle tout dans le film Oblivion avec Tom Cruise, qui est donc Richard Bennett, grand dessinateur de bande dessinée, qui a arrêté très tôt pour s'associer avec Fincher et qui a designé tous les films de Fincher et qui connaît et qui dessine. Moebius disait, il est encore plus doué que Jeff Darrow dans Mes Enfants. C'est vous dire qu'on est quand même à un niveau... Eh bien, il a inventé... Des appareils très simples dans Oblivion, qui sont des espèces de vélos de l'espace et tout ça. Eh bien, ces appareils très simples, cette biomécanique qui procède de l'art nouveau, mais aussi de meubles dont on a l'impression qu'ils vont changer de forme quand on est dedans, ils sont dans cet album, qui est le 7e des Pionniers. Il a, parce que des fois on est prophète sans le savoir, il a inventé les formes qui sont à la mode aujourd'hui dans l'épisode 7. Que vous allez trouver ici, qui est sidérant. Le type est un espèce d'œuf, il est câblé, les meubles, on dirait un côté Gaudi, Van de Velde et tout ça, mais en même temps, on sent qu'ils peuvent changer de forme suivant la personne qui s'assoit dedans. Ils sont biomécaniques, voilà. Et je pense que si je pouvais lui dire, il se moquerait de moi en disant, bah, écoutez, moi, quand je les ai faits, ils n'étaient pas biomécaniques, ils sont devenus, j'ai rien à voir dans tout ça. Parce qu'il aimait bien l'autodépréciation, il adorait ça. Quand je lui ai dit votre histoire de la mort de Lénine, où il y a juste les traits minimums, c'est extraordinaire, il dit, oh, je n'ai pas le temps. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Parce que l'histoire précédente, vous avez fait comme ça pour un spécial, il y a plein de petits détails. J'avais peut-être plus de temps. Je dis, puis non, puis en plus, j'allais vous voir à l'atelier des pyramides. À l'époque, vous avez fait ça. Et si je me souviens bien, au contraire, vous avez déchiré plusieurs fois les trucs parce que vous étiez un peu comme Gruau, vous trouviez que ça n'avait pas l'air assez jeté. Il dit, bon, si vous vous souvenez de ça, bon, ça n'a pas grand intérêt. Et il y a un truc qui m'a fasciné, c'est que j'ai beaucoup fréquenté de dessinateurs de ma génération américains qui étaient souvent des fans de quelques dessinateurs français à l'époque. Pas encore de Moebius qui n'existait pas. Donc j'étais assez ami avec Alex Toth, qui était le dernier descendant de Raymond avec Pratt et qui avait un dessin d'une rigueur incroyable. Et j'étais assez ami avec Al Williamson, qui avait un dessin réaliste post-Alex Raymond. Et tous les deux, ils me réclamaient toujours les albums de deux dessinateurs, Gillon et Raymond Poivet. Et tous les deux disaient... Alors Williamson disait... Je serai jamais à ce niveau-là. Et Toth disait, oui, moi, j'ai dû aller vers une économie extraordinaire, mais eux n'ont pas besoin de ça. De toute manière, eux évoluent tandis que je me fige. Donc c'était dément, mais alors c'était dans la génération des 70 à cause des IC Comics et compagnie et de Warren. Les dieux vivants en France, c'était la secte Alex Toth ou la secte Al Williamson. Ils étaient nombreux, on était des enfants de Creepy, d'Iri et de Vampirella et des IC Comics. Et je disais aux enfants de Creepy, Iri et Vampirella, regardez autour de vous, parce que vos dieux vivants, ils ont des dieux vivants, et ces dieux vivants, ils habitent à côté de Paris. Et c'était très marrant, mais enfin ça c'est l'éternelle histoire de... en France, on expose Crumb, comme j'ai dit à l'ex-ministre de la Culture, mais pourquoi on n'expose pas Moebius ? Ah bah oui, mais il habite là, alors on n'y pense jamais. On peut l'avoir tous les jours, donc on l'aura jamais. Et en plus, c'est à mon sens, puisque Crumb habite dans le sud de la France. Enfin, c'est un étranger. Donc un étranger, on le voit mieux. Et ça, c'est un truc qui m'avait fasciné, parce que comme il y a plein de Poivet qui a un dessin très léché, naïf d'abord, puis très léché, puis parfois simplifié, et puis à la fin, très, très, très simplifié pour les pionniers, où ils se cassaient un peu les pieds, d'ailleurs, à la fin, l'histoire de 20 pages, ça ne lui plaisait plus trop. Hein.
Ben, c'est-à-dire, le fait, c'est que les textes arrivaient, paraît-il, enfin, parce que j'ai plus en mémoire tout ça, les textes arrivaient avec toujours du retard.
Eh oui.
Comme il y avait des investissements de l'écureux pour les pionniers,
ouais.
Si vous voulez, entre... L'un qui ne l'envoie pas et l'autre qui suit tant bien que mal l'histoire, on voit là comment ça s'éteint. Mais c'est le problème aussi, je pense, par exemple, des sagas de la guerre des étoiles, où plus on avance vers les derniers numéros, plus il y a quelque chose qui s'épuise de la scène.
Oui. Je pense qu'ils avaient quand même une longue et belle collaboration. Oui. Et puis, en plus, après... Il a fait quelques œuvres personnelles, magnifiques pour Larousse, des choses historiques, oui, mais avec une précision dans le costume qu'on ne voit jamais. Il a fait une flûte enchantée à tomber terre. Oui. Il a fait des tas de choses marginales. Il a fait l'histoire dont vient Arzac. Parce que j'étais là, quand j'étais commis de Robert Rock Martin, qui avait fondé Futuropolis, et on a édité un fanzine, c'était les Comics 130. La couverture était de Moebius. Et Moebius, on lui a montré les planches d'une histoire noir et blanc, muette, d'une femme qui chevauchait un espèce de ptérodactyle au-dessus d'un champ post-atomique qui pouvait être des champignons ou des rochers qui avaient coulé. Et l'histoire était muette. Et un jour, quand Giraud, qui était devenu, après être mon ami, mon collaborateur, et puis moi-même, il disait que j'étais son chef, parce qu'il voulait avoir un chef, absolument, en fait, on n'arrivait pas, m'a montré Arzac. Et je lui ai rappelé quand même, il me dit « Ah, je m'en souvenais pas, c'est très très possible. » Il dit « Mais tu vois, je m'attribue à Arzac, non, c'est vrai, ça vient de là, ouais, j'ai voulu le faire. » Il dit « Mais alors, avec un petit sourire en coin, il dit « Mais tu peux remarquer, ça se voit pas. Hein. Je suis bon pour camoufler. Hein. » Mais c'est vrai que ça venait de Poivet. Et moi, j'ai collaboré avec lui sur une histoire qui s'est arrêtée avec un journal maudit, Lucky Luke, qui s'appelait Tyriel. Comme c'était un nouveau scénariste, il a fait des gros efforts, il a fait du très beau travail. Alors, au départ, il m'a fait des compliments. Il m'a dit, vous êtes le seul scénariste qui n'est pas verbeux. Des fois, il n'y a pas de dialogue quand on peut tout dire par l'image. Après, il m'a fait moins de compliments. Il m'a envoyé un portrait de moi en espèce de reine du royaume éteint et un portrait d'un pauvre cerf qui attend son scénariste. Parce que comme je faisais Métal Hurlant, j'avais plus le temps. Et ça, c'est un des regrets de ma vie, mais être qui trop embrasse très mal étreint. N'empêche qu'on a collaboré avec une joie extraordinaire et qu'il avait fait des planches qui étaient quelque chose de rare, c'est-à-dire qu'il arrivait à bâtir l'héroïsme nécessaire d'un monde autre, un peu flamboyant à la Beurrooks, avec un minimum de moyens. Moi, je connais des grands dessinateurs comme Krankel ou Frazetta qui ont fait ces univers, j'allais dire, autres, qui sont un peu... les héritiers de John Carter de Mars, Edgar Rice Burroughs. C'est toujours dans la surenchère, c'est toujours dans les poils du dos, de la monture, ou dans les muscles du ventre du personnage de Frazetta, ou dans le petit repli de la poitrine de l'héroïne chez Frazetta pour montrer qu'elle est jolie, mais qu'elle est un tout petit peu en surpoids, parce que comme disait Frazetta, moi les maigres, j'aime pas trop, il faut en avoir dans la main. Lui, il avait fait, et je crois qu'il est le seul, cet univers de rêve enfantin, enfantin, je dis bien, de ma part et de sa part, il avait fait avec un minimum de moyens. Et alors, il avait fait les couleurs d'une violence extraordinaire. Des verts, des rouges, des bleus. Quand on l'a continué, qu'on l'a réédité, on a fait des couleurs à la mode. Le fameux marronasse qu'on voyait beaucoup dans les années 90, où tous les albums étaient marronasse. Vous savez, on a l'impression qu'on avait pris un rouleau qui diffusait plus ou moins. Ça m'est arrivé avec Bilal sur la réédition d'Exterminator 17. Le mec passait un rouleau marron sur la planche histoire de dissimuler le dessin. Mais lui, il avait fait des verts, des rouges, des jaunes. Mais un daltonien, il n'aurait pas retrouvé ses petits. Et je lui disais, mais c'est marrant parce que c'est quand même très, très violent. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait frappé. Il me dit, joli, je sais faire. J'aurais pu rajouter des petits traits, je sais faire. Faire des jolies couleurs, je sais faire. Mais là, vraiment, j'en ai plus rien à foutre de cette espèce de séduction de surface. Et ce qu'il a dit là, je l'ai lu parce que je ne les ai pas connus, dans des interviews assez tardives de Hawks, de Ford quand il faisait Frontières chinoises, de Friedkin qui m'a refusé un scénario en disant « Ouais, mais ça, c'est ce que je faisais il y a 20 ans. Je sais faire ça, mais ça ne m'intéresse plus. Je préfère monter une pièce à la Scala. » Je n'avais pas compris qu'il avait fait le tour de ça. Et maintenant, ça y est, j'ai compris. Parce que je parlais avec un jeune éditeur qui vient de nous quitter d'un truc. Il me disait, tu m'avais proposé cette idée il y a quelques années et tout. On la ferait bien maintenant. J'ai dit, non, non, c'est de la séduction facile, ça. C'est du truc, je sais faire. Mais j'ai plus envie. Et je me dis, oh, je me mets à parler comme Raymond Poivet. Eh bien, c'était, en fin de compte, il me donnait une leçon de sagesse. L'ennui, c'est que les leçons de sagesse, ça ne se partage pas. Il faut que vous les compreniez de l'intérieur.
Que ça vienne pousser, enfin, avec voilà. Une poussée, avec une énergie.
Voilà. Et vraiment, quand il m'a montré ce qu'il faisait de religieux au stylo à billes, alors, il avait quand même... Il pouvait être vicieux, parce qu'il savait très très bien que tous ces trucs au feutre allaient s'effacer. Et il le remarquait.
Pas tous.
Pas tous.
Pas tous.
Alors, il y a ceux qui s'effacent, il y a ceux qui ne s'effacent pas. Gillon avait fait pareil. Ouais. Gillon, tout à coup, les planches des pionniers, il m'en avait donné deux. Et tout d'un coup, j'ai dit, j'ai plus que du gris dans les murs.
Oui, mais le fait que l'encre qu'il utilisait à ce moment-là puisse s'effacer est en même temps tellement révélateur du coup de feutre derrière, où on voit maintenant quelque chose, on voit une autre image derrière la première. Voilà. Même image, mais avec justement des grilles différentes,
oui,
des niveaux de grilles différents.
Et alors, ce qui est très, très curieux, et ça, j'aurais pas eu le temps de lui dire, parce que je ne crois pas à la mortalité en tant que telle au niveau de la communication. Je ne sais pas comment elle s'établit, mais quand j'ai pensé à lui récemment, je suis sûr qu'il l'a su rétrospectivement ou à travers le temps, j'en sais rien. Il y a beaucoup de gens de la nouvelle génération, j'allais dire des graphistes, qui désormais travaillent au stylo à billes, mais le bic qui bave, hein, exprès, pour obtenir des matières précises. Et je me disais, le premier que j'ai vu faire ça, pour les aléas du bic qui a une tendance à fuir, c'est Raymond Poivet, qui a fait des piétas à tomber par terre, et avec le petit truc qui bave, qui a apporté la part d'aléatoire dont il avait besoin. Et là, le bic, ça tient. Hein.
Ça tient. Mais vous savez qu'il a fait, ça je le raconte aujourd'hui, mais il avait fait une série de Madone en 21-29-7, il avait fait une série de Madone avec du vernis noir pour fumiste. Bon, alors ça a dû passer dans un feu quelconque à un moment donné, parce que quand il n'était pas content d'un truc, il s'en débarrassait. Mais je garde le fait, présent à l'idée, le fait de l'usage dévoyé des choses qui pouvaient justement apporter quelque chose à un moment donné. Comment être juste ce qu'il faut délinquant dans l'usage des choses pour que ça prenne du sens. Ça, je pense que c'est aussi sa manière d'être dans l'humour post-mortem.
Oui, et je me souviens quand on lui avait rendu hommage avec Robial et Gillon à Angoulême avec le 30-40, où il pouvait déjà plus tellement bouger.
Il était pas en forme.
Et en plus, moi, m'étais cassé la jambe, c'est la bande des pieds nickelés quand même. Mais je sais qu'il en était content, et je sais que Il a joué quand même des fois un peu, oh, c'est pas très grave, pas très important, mais il était un ravi des visites, parce que quand avec, je partais avec Gilon, il disait, ouais, j'espère que la prochaine fois, c'est pas dans un an. Généralement, on attendait pile un an, et Paul au moins, on s'appelait l'un l'autre. Il était humble en disant, oui, j'ai fait des trucs moyens, mais quand je lui disais, les plus grands Américains vous adorent, il me disait, montrez-moi un peu ce qu'ils font. Ah ouais, c'est bien, ouais, ouais. Donc, il était quand même, je pense qu'il avait conscience de sa valeur, mais là-dessus, il faisait un assez joli numéro dans le genre, oui, enfin, c'est que des trucs que j'ai fait de circonstance et tout. Exactement le discours de John Ford, pas celui avec Bogdanovich, où il répondait oui, non, question suivante, mais celui qu'il avait fait aux critiques du New York Times, qui lui dit, vous avez fait le plus grand film du monde, ça s'appelle La prisonnière du désert. Comment l'avez-vous fait? Comment l'avez-vous tourné? Et Ford a répondu, avec une caméra. Eh bien, en plus circonstancié, Monsieur Poivet répondait comme ça. Dans le genre, bah oui, à l'époque, c'est le scénario que m'a donné le cureux. Et puis, il se trouve que, ouais, inventer des chaises nouvelles, ça m'intéressait. Le reste, je ne me souviens plus très bien. Enfin, de toute façon, c'est un scénario que j'avais eu à l'heure, donc j'avais le temps de le faire. Bon, les couleurs, c'est pas ma faute. Il était dans l'auto, machin. Et par contre, quand on projetait ses dessins en grand aux Arts Déco, il était ravi. Quand tout le monde venait le voir pour lui dire que c'était magnifique, il était ravi.
Mais non.
Ouais. Mais voilà, il disait, non. Écoutez, je disais, ouais, là, quand même, c'est les naufragés de Forest, c'est votre suite et tout, de Forest et Gilon. Il dit, non, c'est autre chose. C'est très bien, d'ailleurs, ce qu'ils font. Et c'est marrant parce qu'on parlait avec Caro hier. Il a ouvert des portes qu'il n'a pas pu fermer. Caro, il disait, oui, mais l'histoire dans Chouchou, qui était écrite par Remo Forlani, qui était petit machin et les mystères. Là.
Oui, Petit Gus et les mystères.
Petit Gus et les mystères. C'était sidérant. Le début, on a eu quelques planches avec des routes ordinaires, des gens ordinaires, des voitures ordinaires, et tout d'un coup, un homme avec une tête de bête qui surgit, et on n'a pas eu la fin, c'est peut-être aussi bien parce qu'on reste dans la magie, et c'était une histoire, on s'est dit, mais c'est encore Pierre Véry, c'est déjà Wes Craven. C'était extraordinaire. Et moi, je vous conseille de profiter des temps, parce que, par exemple, si vous allez chez n'importe quel soldeur, vous allez trouver tout l'histoire de France Larousse à 1 euro du bout. Vous avez 7-8 albums, 7-8 histoires complètes de Poivet à tomber par terre, qui se passent à différentes époques. Alors le costume, là, il est raccord. Hein. Je peux vous dire qu'il ne manque pas un bouton à la vareuse Napoléon III ou machin.
Ça aurait pas été, il n'aurait pas pu le dessiner.
Voilà. Vous trouvez facilement sa flûte enchantée, pour pas cher. Bah, foncez. Vous trouvez différentes éditions des pionniers, bah, foncez. Hein. Là, il faut profiter. L'occasion fait le larron. En attendant qu'un éditeur un jour enfin peut-être daigne rassembler beaucoup plus et qu'on réalise qu'il est le pont entre la bande dessinée américaine d'avant-guerre où en gros il y a Satogan et Pelos et puis quelques autres mais pas tellement de novateurs et la bande dessinée moderne d'après-guerre où il arrive très classique pendant la suite de Calvo pendant la guerre, et où tout doucement en évoluant, il est déjà tout ce que va devenir la bande dessinée moderne, qui l'accompagne jusqu'à ce qu'on a appelé, je pense à l'Expo Leclerc de Noël, la bande dessinée fait sa révolution. Il a été là tout au long du chemin, alors à la fois comme accompagnateur, et puis aussi parce qu'il était malin comme Moebius, des fois en donnant un coup de pied dans la fourmilière comme histoire muette, à la tête du peloton. Hein, parce qu'il a fait l'échiquier cubique et deux ou trois albums comme qui ça, était, oui. Qui restent très gonflés au niveau du récit qui demande un investissement pour comprendre. En fait, c'est chez rien, donc il n'y a rien à comprendre. Il vous perd dans ses méandres.
Là, juste un point qui me paraît, comment dirais-je, interprétable directement de mon côté, c'est que je pense très nettement à la fois qu'il s'investissait dans l'idée de la science-fiction au sens de l'articulation du sensible et du scientifique et du rigoureux, et que d'une certaine manière, toute son œuvre, tout ce qu'il a pu produire, c'est à chaque case l'image du désir suspendu. Et c'est, je pense, la condition de la lisibilité d'une BD. Là, je parle de mon côté dans mes lignes. Hein. Mais on sent très bien qu'il y a ce même mécanisme d'authenticité de l'image qu'il y a, par exemple, au travers d'un dessin d'enfant. C'est un dessin d'enfant revu par un adulte de parfaite maturité. C'est là où il y a, à mon sens, un paradoxe, par curiosité intellectuelle, qu'il est bon de chercher. Parce qu'on a des albums, on a les dessins, simplement il faut les lire, je dirais, avec la bonne optique.
Et vous avez raison, parce que les conseils qu'il donnait, il les a donnés à des gens de tous les âges et ils fonctionnaient pour eux, donc il était en phase réelle avec eux, et que moi, quand j'ai collaboré avec lui, moi je travaille bizarrement comme scénariste, que je vois des images. Et j'essaye de les écrire pour voir des images. Et lui voyait des images, c'était à peu près les mêmes. Donc, dans l'ensemble, on n'a eu aucun problème. Mais on avait quand même un écart d'âge assez conséquent. Qui, normalement, parce que j'ai travaillé récemment avec un vieux maître italien qui avait le même écart d'âge sur une petite histoire qui s'est bien passée. Mais bon, j'ai dû tenir compte du fait que lui, justement, n'avait plus envie de faire ceci ou cela. Et donc, il a épuré ce que je voulais faire pour faire quelque chose de... qui transcendait ce que j'avais fait, mais qui était autre. Dans le cas de M. Poivier, pas du tout. Il a littéralement fait l'histoire. Il avait même fait un effort démesuré, puisque le héros, ça se passait dans les années 67-68. Et alors, je n'étais pas content, parce que je voulais faire un album intemporel. Et je m'étais dit, je lui ai dit, faites attention à ce que le costume du héros, quand il est sur la Terre, soit intemporel. Et il lui a fait des pattes d'eph. Les pattes d'éléphant gigantesques. Et je lui dis, mais j'étais prophète. Je lui dis, les pattes d'eph, ça ne va pas tenir. D'ici 2 ans, ça va être complètement démodé. Et quand je relis les planches, je me dis, bon, heureusement que maintenant, les pattes d'eph, à nouveau, c'est post-moderne, ça peut passer. Mais à un moment, la patte d'eph, moi, je voyais plutôt un Lewis 501 normal. Oui. Qui était...
Oui. Ben, c'est ce genre de facétie auquel il se livrait. Il avait livré des planches, je crois, de la reine Margot ou quelque chose comme ça. Il avait livré des planches où on voyait la reine Margot dans son carrosse et derrière, il avait mis des fils électriques. Et il a été... il était moins une que ça paraisse avec ça parce que personne n'avait regardé. Voilà, anecdote.
Oui, mais ouais, ça m'étonne pas. J'allais dire que je crois que ce qui l'a le plus intéressé dans ses œuvres tardives, il y avait les personnels, il y avait notre collaboration, on était content qu'on soit deux, ça a été d'essayer de transposer Mozart en BD dans La Flûte Enchantée.
Exactement,
parce qu'il
ouais.
s'est vraiment posé le problème de comment rendre la musicalité en BD. Alors, comme c'est un 48 pages et que La Flûte Enchantée, ça nécessiterait à peu près 300, etc., c'est pas le cas. Mais moi, je pense que si vous achetez La Flûte Enchantée et que vous écoutez La Flûte Enchantée, vous vous dites, mais ça, il y avait songé qu'il aurait pu faire un prodigieux décorateur ou metteur en scène de théâtre. Il en avait tous les talents possibles, sauf qu'il n'avait pas envie de diriger des gens.
Non.
Mais par contre, il aurait été un chef décorateur de théâtre prodigieux. Mais là, c'est la vibration de la lumière, c'est les couleurs qu'il n'avait pas faites daltonienne, qu'il avait faites très classiques et tout. Et c'est une vision de La Flûte Enchantée, mais totalement extraordinaire. Et je sais que vous avez dans vos greniers des histoires complètes, incroyables, inédites. Moi, je me souviens d'un début d'une adaptation de Dumas.
Joseph Balsamo qui est complet, 200 pages.
Il y a 200 pages. Il aimait beaucoup Melino, le grand Italien de grand hôtel qui faisait des lavis incroyables et tout. Mais il avait fait, à mon avis, mieux que Melino qui parfois est mou. Et il a fait l'adaptation de Joseph Balsamo. Et comme il dit, Del Duca, il croyait au roman dessiné. Puis le jour au lendemain, il a cru au roman photo et puis il a arrêté. C'est ça, je crois.
Voilà, c'est ça.
Donc, il a 200 pages. Et Forrest pensait à mettre un scénario dessus, mais c'est compliqué, parce qu'il aurait fallu arriver à faire une histoire. N'empêche que ces 200 pages, Joseph Balsamo en la vie,
C'est merveilleux.
C'est sublime. C'est sublime. C'est un truc... parce qu'il contrôlait les lumières. Parce que la vie, c'est un art en relief. En fait, c'est très proche de ce qu'on peut faire en informatique maintenant. C'est-à-dire que c'est de la bande dessinée en relief. Et il faisait des lavis, mais à tomber par terre. Et il a des trucs comme ça. Mais alors, fallait les trouver, parce que je me souviens de la fois où il les avait perdus sous un matelas.
Oui, c'est Faust.
Voilà, alors je les jetais à Balsamo, ils sont dans un endroit secret connu de moi seul, mais je ne sais plus où. Un truc comme ça, et on les a cherchés pendant longtemps.
Oui, ça, je les ai retrouvés. Par contre, comme la flûte enchantée, c'est que... Comment dirais-je ? Il communiquait ses dessins dans des tubes en carton. Les tubes en carton déformaient en quelque sorte le paquet de pages, et pour redresser ces pages, il les mettait sous un matelas. Et puis, ça, je ne le savais pas, et c'est au bout de 4 ou 5 ans, quand on a soulevé le matelas, qu'on a retrouvé la flûte enchantée. C'est d'ailleurs très bien pour le... Symboliquement, par rapport à Mozart, le retrouver sous un matelas, ça vaut le coup.
Voilà, j'allais dire, je ne sais pas si on se reverra bientôt. Ceux qui connaissent l'œuvre de M. Paivet, je pense qu'on a eu de beaux échanges. Ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller voir et ils verront quelqu'un qui raconte la naissance hors Belgique, hein, je dis bien, parce qu'il y a toute l'école belge qu'on va mettre à part, mais la naissance... Puis la révolution de la bande dessinée française, y compris ce que j'ai fait plus tard avec mes collègues dans Métal Hurlant, au travers d'une seule personne qui a d'abord mené un atelier où il était un peu celui qui donnait des conseils aux autres, gentiment, ou qui les aidait, au travers d'autres qu'il a aidés plus verbalement, au travers d'autres qu'il a rencontrés, il est le tournant. Il est le moment où la bande dessinée française devient celle dont les Chinois disent maintenant, parce qu'eux, ils sont restés un peu bloqués, non, on ne veut pas d'Américains. Hein, les Américains, on les aime pas, les Américains. On veut tout ce qui est de la génération Moebius, Méziens et Liberato. Liberato. OK. Eh bien, en gros, tout ça... y compris Libérateur, qui a gardé beaucoup la bande dessinée française et tout. Tout ça, c'est les enfants de Paivet, dont je fais partie. Je vous invite à prendre le train fantôme et vous allez avoir de sacrées surprises. Voilà. Alors, ne commencez pas dans l'ordre 1 des pionniers, parce que le 1, il n'est pas encore en place. Le 2, il y a encore une influence raymondienne un peu. Et puis le 3 s'émancipe, le 4 est sublime, le 5 est sublime, le 6 est sublime. Et puis vous faites les marchés opus, qui ne rapportera rien aux éditeurs. Et vous allez trouver des tonnes de merveilles à des prix très abordables et découvrir un géant dans le monde de ce qu'on appelle désormais le 9e art, ce qui ne lui plaisait d'ailleurs pas du tout.
Ça, alors là, le 9e art, comme il disait, finalement, ce qu'il faut pour un fabricant de BD, en quelque sorte, c'est qu'il tienne compte de l'imprimeur. Si l'imprimerie est mauvaise, de toute façon, il n'y a rien à faire.